Être et avoir l'été, telle est la question que l'on se pose dans ce nouveau numéro de C'était mieux après. Voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on part en vacances avec nos tongs et notre Levi's. Un briquet dans une poche, des chewing-gums dans l'autre, c'est Hollywood qui nous attend. Voici le sommaire. C'est accoudée au bar de la Chouette qu'elle sirote un jeans. Mais pas n'importe lequel. Bonsoir Caro, de quoi nous parleras-tu ce soir?
Bonsoir, eh bien je vais vous parler de la marque de jeans la plus connue au monde.
Ah, ok. Pour les sots, ça fait un surnom. Pour les autres, ça fait à l'humeur. Bonsoir Florian, quel est le sujet de ce soir?
Bonsoir, eh bien je vais vous parler d'un objet qui a traversé les millénaires depuis les hommes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui.
Ok, que de mystère. On ne va pas lui mâcher le travail, on va lui laisser présenter sa chronique. Bonsoir Mathias, on parle de quoi?
Bonsoir, eh bien ce soir je vais vous faire mâcher et pas marcher, justement.
Oula.
Je vais vous raconter comment est paru le chewing-gum, le chewing-gum que l'on connaît aujourd'hui.
Ah, d'accord, on va mâcher du chewing-gum. Très bien. Une première partie de CMA bien complète, avec en plus un Graal qui nous coûtera plus d'un centime, vous verrez. Et en deuxième partie, on retrouvera Olivier et Robin. Bonsoir les garçons.
Bonsoir.
Mais bonsoir. Pour le moment, il est temps de découvrir les premières chroniques de CMA. Le doigt sur les coutures du pantalon, nous sommes rivés sur ses lèvres. Oh. Ça ne fait pas un pli, c'est la chronique de Caroline. Tu as la référence de la chanson?
Je vois la chanson, mais c'était pas la pub ou
si, c'est la pub
l'homme était torse nu?
C'est ça, où il est avec la machine à laver.
Ah ouais, pas mal ça. Ouais, ça met dans l'ambiance un peu. C'était et non, bien. Alors, donc ce soir, je ne vais pas vous parler de Black & Decker, Levi's.
Oh là!
Ou de Miami Vice.
Oui, joli.
Mais bien de la saga, les Levi's.
Bon, eh ben ça commence bien.
J'ai bossé 2 heures dessus.
Ah ouais, non, mais je vois ça, ouais.
Oui, et donc on va voir les origines au travers, tout simplement, de l'étiquette qui se trouve derrière du jean. Voilà. Donc, à l'origine, c'est Loeb Strauss, qui est né en 1829 en Bavière. Immigré d'origine juive, il s'installe à New York avec toute sa famille, qui ouvre une mercerie familiale. Durant la grande période de la ruée vers l'or, il est envoyé tout seul à l'ouest pour ouvrir une succursale. Il décide alors, puisque cette succursale fonctionne très bien, de fonder lui-même sa propre entreprise de textile cette fois, en prenant son nom hébraïque, donc Lévi, qui donne Lévi Strauss & Co. And Company.
D'accord.
C'est d'ailleurs la première chose que l'on trouve inscrite sur l'étiquette située à l'arrière du jean. En haut, en gros, vous trouvez Lévi-Strauss & Co. Voilà, juste en dessous de cette même étiquette, on peut lire San Francisco, California. Pourquoi? Eh bien, ça correspond à l'adresse de l'entreprise située sur Sacramento Street. C'est d'ailleurs une rue et une ville où les affaires marchent super bien pour tous les tailleurs. Ils y sont très demandés avec les chercheurs d'or, les workers de l'Ouest, donc les ouvriers, qui déchirent leurs pantalons très souvent au boulot et qui demandent ainsi à les repriser par les tailleurs du coin, puisqu'effectivement, à cette époque, on ne changeait pas de jeans, on n'en achetait pas de nouveaux comme ça. Donc en fait, il fallait les repriser à chaque fois. Donc les tailleurs font complètement fureur à cette époque. C'est alors qu'en 1872, Jacob Davis, un autre tailleur du Nevada, lui, a alors l'idée de riveter les jeans pour rendre plus solides les poches et renforcer les points de tension des pantalons, donc essentiellement à l'arrière des poches. Il s'associe donc à Lévi-Strauss pour breveter les pantalons de travail, riveter cette fois. C'est une mention que l'on retrouve d'ailleurs toujours sur l'étiquette, c'est écrit « Original Rifted ».
Ok.
Voilà, pour cette raison.
On apprend des choses.
Exactement. Eh bien oui, en fait, c'est tout bête, parce que maintenant, on va regarder notre jean Levi's, on va regarder juste la taille, longueur et la taille, mais en fait, sur l'étiquette, on a absolument toute l'histoire, et au final, on n'a pas si bien regardé de ça.
La vérité
ça,
est ailleurs. Vas-y, ce que
exactement. Et ensuite, en 1873, le jean que l'on connaît aujourd'hui est créé, Enfin presque, car à l'époque on n'utilisait pas du tout le terme de jean. C'est un terme qui arrivera dans les années 60. À l'époque, on l'appelait le rifted waist overall. Alors littéralement, la salopette courte riftée.
Donc ça faisait... On parlait pas du tissu en fait. Parce que le jean, c'est un rapport avec le tissu. Ça, on disait pas quel tissu c'était, non ?
Ça a été un phénomène un peu de mode, en fait. C'était, oui, blue jean, denim, etc. Ouais.
Ouais.
Oui, ça arrivait dans les années 60. D'accord. Donc, ouais, on parlait pas du tout de tissu, on parlait d'une forme plus ou moins approximative. Et voilà, c'était plus salopette courte riftée. Pour autant, c'était le pantalon qu'on connaît actuellement. Voilà, alors le problème, la durée du brevet était de 17 ans. Donc, il y a eu un énorme essor de la concurrence. Et pour faire face à ça, Lévi-Strauss a tout misé sur la qualité. Donc il devait un petit peu se démarquer des autres, et pour ça il a décidé d'utiliser une image hyper percutante, qui puisse être comprise de tous, parce que dans l'Est sauvage, tout le monde ne parlait pas anglais, et tout le monde ne lisait pas, et ne lisait pas correctement, et ne lisait pas l'anglais. Donc en fait, il a trouvé la solution, c'est de mettre sur l'étiquette, toujours, et vous la trouverez sur les étiquettes actuelles, deux chevaux écartelant un pantalon de travail qui résiste.
D'accord.
Voilà, puisqu'il voulait baser l'image de sa marque sur la qualité extraordinaire et la résistance du jean de travail.
Donc du coup, ils l'ont refait avec la publicité, puisque une voiture tirait un camion avec
exactement.
Le jean
écartelé. Ouais. Voilà, ils ont vraiment misé sur ça, sur une qualité extrême. Donc avant de devenir Levi's, il faut savoir que la marque se faisait même appeler Two Horses, les deux chevaux. D'accord. On demandait le jean avec la marque des deux chevaux. Donc voilà, alors enfin... À droite du second cheval, on retrouve la mention XX, principalement sur les 501, donc ce sont les jeans de base classiques de la marque Levi's. XX est l'acronyme de Extra Strong, Extra Strong avec un accent. Elle désignait la toile la plus haute en qualité qui provenait d'une usine de Manchester dans le New Hampshire. C'est une marque qu'on retrouve toujours à côté du cheval, situé à droite. Évidemment, on retrouve les marques que l'on trouve encore de nos jours. Le W pour waist, qui veut dire taille. C'est ce qu'on regarde en premier, en général. Mm-hmm. Et le L pour length, longueur. Voilà, ce sont les choses qu'on regarde en premier sur l'étiquette. Et au final, si on regarde bien, il y a plein de petits détails sur cette étiquette hyper intéressants. Voilà.
On va arriver au lavage.
Non.
Non, sur l'étiquette, il n'y a pas ça, si, quand même.
À l'étiquette intérieure, mais pas celle du jean extérieur.
Ah oui,
en
d'accord.
En fait, l'étiquette cuir extérieur, la cuir, elle retrace en fait toute l'histoire du jean. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on ne regarde plus du tout, en fait. On regarde sa taille, on regarde sa longueur, mais au final, le détail
après,
des deux chevaux, ouais. etc.
Après,
voilà.
c'est derrière, ça fait un peu bizarre de regarder quand même.
Ouais, sauf que l'étiquette du jean, elle change jamais. Alors que l'étiquette de la taille, elle change.
Ah bah c'est ça, et puis en plus Levi's c'est très compliqué puisque ce sont les tailles américaines, donc différentes des nôtres. Donc il faut toujours calculer à peu près, il faut bien essayer son jean Levi's. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, puis l'étiquette a elle aussi évolué en fonction des années.
Ah, ce qu'on m'a dit moi, c'est que quand on prend un jean, il faut prendre un bain avec.
Ton jean.
Oui,
non,
oui,
t'as déjà enlevé un jean mouillé
pour vraiment qu'il se fasse à ta taille, vraiment au corps quoi. Ouais. Et après, apparemment c'est nickel. Après.
Il faut qu'il sèche sur toi et qu'il prenne la forme de ton corps.
Ah bon.
Ouais, après c'est un peu un mythe parce que les Levi's taillent quand même super bien et tu peux les laver ou pas les laver, mais si tu les
ça bouge pas énormément.
Non. Plus maintenant les qualités ont été transformées.
Alors un jean mouillé, mais alors c'est une horreur.
Il y a que les
vrais.
Il
y a que vous.
Ah ouais. D'accord.
Enfin voilà, donc merci juste à Jonathan pour sa passion et sa documentation très complète sur cette marque culte. N'hésitez pas à aller dans sa boutique Kilo Shop où vous trouverez des super Levi's de seconde main.
Ah d'accord.
Oui, c'était une petite collaboration.
Ouais, ben enchanté Jonathan, pas de souci.
Merci Joe.
Yes, dans un instant, on s'enflammera et on fera des bulles. Mais avant, c'est le Graal qui répond à une question pas si bête sur le prix d'une pièce de 1 centime.
Question de tirelire, ça coûte combien 1 centime ?
Cher tirelire, sache qu'un centime coûte cher, trop cher. Dans un instant, je te rends la monnaie. Une pièce a bien sûr un coût de fabrication, et dans le cas de la pièce d'un centime, le paradoxe est qu'elle coûte 1,2 centime à fabriquer. Certains pays ont carrément décidé de ne plus la produire pour leur marché interne, c'est le cas de l'Irlande, la Finlande ou les Pays-Bas. 72% des Européens trouvent inutiles les pièces de 1 à 2 cents. Avec le Covid, le paiement dématérialisé a dépassé l'utilisation d'argent liquide, histoire d'éviter tout contact physique. C'est cet élan que les gouvernements aimeraient prolonger. En effet, la disparition des espèces, et pas seulement des cents, réduirait le marché noir noire non traçable. Mais d'un autre côté, si on fait disparaître les pièces de 1 cent, il est fort à parier que les commerçants arrondissent au prix supérieur. À l'échelle de l'Europe, on pourrait parler du risque d'inflation.
Eh bien voilà, la pièce de 1 centime donc coûte plus cher qu'un centime, donc gardez-les, on sait jamais. Allez, c'était Le Graal à retrouver sur Spotify et les podcasts plus du site radio-g.fr. Vous êtes toujours dans CMA, et avant de nous faire péter les plombs avec la chronique de Mathias, on met les gaz pour une rubrique enflammée qui va faire des étincelles. Il a sorti son bic, voici la chronique de Florian.
Et on allume les briquets pour faire bouger les flammes. Et on agite les briquets pour que la vie s'enflamme.
Hein, pas du tout.
C'est une ambiance. Alors effectivement, je vais vous parler de briquets ce soir. Donc les premières personnes qui ont inventé le briquet, enfin inventé, on ne sait pas qui a inventé le briquet, en tout cas la première génération de briquets, ils ont pensé aux hommes préhistoriques qui frottaient deux silex pour faire une étincelle et puis tout ça, et faire le feu. Et bien là, c'est la même chose. Alors, c'est pas avec deux silex au début, c'est avec un morceau de métal à forte teneur en carbone qui frotte contre un silex.
D'accord.
Ça crée une étincelle qui va embraser ensuite une autre partie de ce premier briquet. C'est un initiateur. Alors, c'est soit de l'amadou, donc c'est le briquet à amadou, donc c'est un matériau spongieux issu d'un champignon, donc ça s'enflamme très vite.
Mm-hmm.
Soit une mèche de coton trempée dans une solution de jaune de plomb ou de salpêtre. Et en fait, c'est la poudre qu'on utilisait pour les premiers fusils et les premiers.
D'accord. Ah, c'est pas de l'alcool,
du coup. Les premiers pistolets.
C'est...
Non. Au départ, c'est pas ça. Et d'ailleurs, on disait battre le briquet. Voilà. On disait ça à l'époque, parce que c'était. Alors, c'est des formes.
Il faisait 15 kilos.
C'est des formes. Ah, bah, je pense que c'était assez lourd, parce qu'un métal. Du bon métal. Donc, voilà, on avait ça. Ensuite, la deuxième génération de briquets. Elle arrive en 1823, et là on a le nom de l'inventeur. C'est un Allemand, un chimiste allemand, Johann Wolfgang
Briquet.
De Behreiner. Non, c'est pas Monsieur Briquet.
Ah, c'est pas Monsieur Briquet.
Non, Monsieur Briquet a donné son nom à un autre objet, un autre mot.
D'accord.
Qui s'appelle briquet aussi, dans le Nord. C'était le repas des mineurs, en fait, on appelait ça le briquet.
Et donc, du coup, ça vient d'où le nom briquet ?
Eh ben, attends.
Ah, bah d'accord.
Enfin, je vais vous décevoir, je pense, mais.
Ça du genre, on ne sait pas.
Mais il faut écouter à la fin, quand même.
Ok.
Donc Johann Wolfgang Dobereiner invente le briquet, et donc et en fait c'est une cartouche remplie d'hydrogène munie d'un catalyseur en platine pour déclencher la flamme.
Ah oui, c'est un peu dangereux quand même.
Un petit peu.
Ouais.
C'est pour ça que vite, alors après on améliore, on revient plutôt à des choses qui finalement font une étincelle et se servent de l'amadou en tout cas d'une mèche.
D'accord.
Imbibée.
Parce que ça explose quand même l'hydrogène.
Voilà, ouais. Ouais. Mais okay. C'est assez volumineux le briquet de Monsieur de l'Allemand.
D'accord.
Alors ensuite, en 1900, on a la troisième génération. Donc là, ça devient un peu plus petit. C'est un chimiste qui invente le ferrocérium.
Ouais.
Ou appelé la pierre à briquet. Donc là, c'est un peu plus connu, la pierre à briquet. Donc c'est le même principe que le briquet qui frotte contre le silex, mais là, ça frotte contre la pierre à briquet. Et en fait, ce chimiste, invente la petite molette en acier.
Ah, qui gratte.
Qui justement frotte contre cette pierre-là.
D'accord.
Alors, c'est une pierre qui est. Alors, la composition de la pierre, c'est 30% de fer et 70% de autre chose, mais tous des composants chimiques.
Du carbone, du
rares
machin,
en fait, qu'on trouve.
Ah, d'accord.
Mais du coup, c'est vachement plus simple puisque maintenant on n'utilise que son pouce alors qu'avant, il fallait utiliser les deux mains.
Les deux mains, c'est ça, sans doute, oui. Il fallait tenir.
Non.
Non, c'était quand même à une main.
D'une main, on y arrivait à. Ah oui, ça fallait appuyer
ouais.
Puis ça alors, tapait.
Ah non, il fallait quand même. Ouais,
ouais ça devait être plus compliqué.
C'est plus pratique quand même qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était déjà beaucoup plus pratique que les deux versions d'avant. Alors par contre, le seul bémol, c'est qu'il fallait souffler sur l'étincelle en fait pour enflammer.
Ah, parce qu'elle était trop loin de la mèche ou
bah, non, parce qu'il n'y a pas de, il y avait pas de mèche en fait. Enfin, il n'y a pas d'initiateur, il n'y a pas de combustible en fait. En fait, il y a juste la molette en métal.
Donc il fallait mettre le tabac. Enfin, si on fumait, il fallait mettre juste à côté du tabac.
Souffler.
Et puis ça faisait l'étincelle et l'étincelle faisait avec ce qu'on voulait allumer.
Voilà, il fallait souffler pour avoir une mini flamme et ensuite allumer directement.
Alors ça existe, ça, oui, c'est une forme d'allumette. Pratique. C'est une forme d'allumette maintenant, c'est vendu comme ça. Et effectivement,
alors,
c'est pierre
oui,
à briquet.
Oui, c'est ça, en
et c'est ça qui permet voilà. Une allumette éternelle en fait.
Ensuite, nous avons la quatrième génération de briquets.
Mm-hmm.
Donc là, on est dans la période de l'essor des briquets à essence. Donc aux alentours de la Première Guerre mondiale, puisque les soldats de la Première Guerre mondiale utilisaient le briquet à essence, puisque les allumettes étaient inutilisables dans les tranchées, au vu de l'humidité.
Mmh.
Et donc ils avaient ce briquet. Donc en fait, c'est le même principe que la pierre à briquet, sauf qu'il y a une mèche qui trempe dans l'essence, Et en fait, elle est imbibée d'essence, il y a un petit réservoir en dessous, il y a l'essence, et donc ça enflamme, ça fait une flamme.
C'est une petite lampe à huile, quoi, une petite lampe à essence.
Voilà, donc c'est quand même bien pratique, et c'est l'ancêtre, en droite ligne, de la cinquième génération de briquets, inventée
avec le gaz, Bic.
Monsieur Henri Pinjot, en 1948, qui fonde effectivement la société Bic.
Ah, quand même. Ah, ah si, c'était pas loin.
Et donc le briquet qu'on connaît aujourd'hui en France est français. Donc il est fabriqué à grande échelle par contre en 1960. Donc il est inventé en 48, mais c'est vraiment en 60 qu'il y a une diffusion absolument exceptionnelle de ce briquet Bic que tout le monde connaît. Et donc l'essence est juste remplacée par du gaz, en fait, du gaz liquide. On le voit en général chez les briquets transparents, on voit qu'il y a le gaz à l'intérieur. Alors ils sont jetables, donc ça c'est pratique. Enfin c'est pratique.
Alors voilà.
À l'époque c'était pratique.
À l'époque c'était pratique.
Aujourd'hui, certains ont calculé le nombre de briquets qui étaient jetés sur Terre et qui polluaient la Terre, puisque c'est en plastique, que les matériaux ne sont pas forcément recyclables. Et donc, on estime, donc ces personnes ont estimé à 8 milliards le nombre de briquets par an qui sont jetés.
Par an. Oh, la vache.
Alors, ils ont fait un calcul.
Dans le monde.
Dans le monde.
Ah ouais. Ouais.
Alors, il y a, je sais plus combien, il y a...
C'est pas mal quand même.
Il y a 1 milliard de fumeurs. Alors, ils ont fait, il y a 1 milliard de fumeurs qui utilisent un briquet tous les mois.
Ouais, c'est des
et donc, forcément, ça fait 12 mois, ça fait 12 milliards. Et comme 12 milliards, c'est gros, ils se sont dit, bon.
Un briquet tous les mois, c'est quand même.
8 milliards.
J'ai des amis, c'est un peu ça. Hein, quand même.
C'est pas déconnant, j'ai fumé, effectivement.
Ah ouais, tu jettes. Entre ceux que je perdais, ceux que
j'en avais un dans mon sac, un qui traînait chez moi.
Parce que ça dure plus longtemps, quand même, techniquement.
Alors, il y en avait, il y en a des rechargeables.
Il y en a dans ta voiture, il y en a que. Enfin.
Oui, puis en plus, on a plusieurs. Donc le briquet, et depuis, on est quand même resté beaucoup à celui-ci. Alors il y a eu d'autres générations et innovations sur le briquet. Vous avez le briquet solaire, qui a été breveté en 1870, mais il a fallu attendre un siècle plus tard, en 1970, pour qu'il soit un petit peu...
Mais disons, il faut qu'il y ait du soleil,
un
quoi.
Petit peu commercialisé. Alors c'est un petit briquet, en fait, qui est...
Il y a une loupe dessus, quoi, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, ça, comme un four solaire, enfin, on voit bien les rayons du soleil qui arrivent et ça crée une flamme. Vous avez le briquet tempête. Donc lui, il est né dans les années 2000. C'est un briquet au gaz butane avec un filament qui maintient la flamme tout le temps.
Même
s'il y a du vent, qu'il pleuve, machin, la flamme reste. Vous avez le briquet chalumeau. Alors ça, c'est le truc génial dans les années 2010. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais
C'est un briquet qui a deux flammes et ça crache du feu de Dieu.
Je pense qu'il y en avait pas mal.
Ça permettait de souder en même temps. Quoi.
Donc c'est un mélange de gaz et d'oxygène. En fait, ça crée une flamme.
Donc c'est vraiment un chalumeau.
Ça crée une flamme. On a eu en 2018 le briquet à induction. Donc là, c'est une simple pression sur une zone tactile, en fait. Et en fait, ça suffit à déclencher l'allumage. Donc, c'est rechargeable en USB. Comme les plaques à induction.
D'accord.
En fait.
Bah, il faut que de l'autre côté, ce soit quelque chose qui puisse recevoir. Parce qu'une cigarette à induction...
Le briquet à induction, c'est ce qu'on a dans les voitures qu'on appuie pour allumer sa cigarette, c'est ça?
Non. Ça, c'est allume-cigare. C'est juste une résistance toute bête.
Ouais, bah,
non. Tant
pis. Là, c'était vraiment induction. C'était vraiment la pression qui faisait que tu allumes. Et puis, on a eu le briquet à arc électrique. Rechargeable en USB aussi, donc ça crée un arc électrique et ça allume ce qu'il faut, donc il y a pas de combustible particulier, c'est juste ça.
Enfin, alors, ça vaut pas le Zippo,
les
Zippo, c'était à l'essence, c'était beau.
Ouais, et
puis c'était plus stylé.
C'était plus stylé,
avec
le petit clapet qui ouvre et tout.
Ce qu'on appelle aussi les tempêtes, non?
Mais en fait, c'est
je sais pas si c'était pas un briquet tempête.
C'est le briquet avec la petite molette, en fait, quand tu ouvres...
Avec l'essence, il y a eu une molette, c'est vrai.
Il y a une petite molette,
qui
frotte sur justement la pierre à briquet et ça s'allume comme ça.
Mais c'est un très bon argument que Zippo pourrait utiliser aujourd'hui en disant qu'ils sont écolos, entre gros guillemets, puisque au moins il n'y en a pas 8 milliards par an.
C'est ça. Après, on va le jeter, vu le prix que c'est, on va pas le jeter.
L'inconvénient, c'est qu'il coûte 30, 40 euros, alors que les bics, ça doit être 2 euros, 5 euros, un truc comme ça.
Oui, c'est pas cher.
Alors je reviens rapidement sur
le nom.
La question de Bruno.
Oui.
Pourquoi le briquet s'appelle le briquet? Eh bien, très difficile de savoir pourquoi le briquet s'appelle le briquet. Plusieurs explications. Alors ça viendrait peut-être de l'ancien français brique, qui signifierait un morceau de quelque chose. Donc en l'occurrence là, un morceau de métal, puisqu'à l'époque c'était un morceau de métal qu'on utilisait. Donc
ou briquet, c'est frotter.
Briquet, non je pense pas non plus.
Parce que briquet ça veut dire frotter.
Tu peux effectivement alimenter une discussion sur l'étymologie du mot briquet.
Okay.
En tout cas je l'ai pas trouvé celle-ci, mais c'est possible. Okay. Ou alors de l'arabe barik, barikat,
Ça va plus loin,
qui signifie qui lance des éclairs, étincelants.
Ah ouais, un petit lien.
Hein. Enfin, de l'aide de barricade à briquet, il faut vraiment être pété quand même.
Tu sais, on a quand même beaucoup de mots de l'arabe
qui sont vraiment beaucoup bougés. Ouais.
Mais bon, difficile. J'ai pas trouvé d'étymologie plus claire que ça. Donc
d'accord.
Je
te crois.
Mais en tout cas, ça reste un briquet.
Merci Florian. On passe maintenant à une chronique de bon goût qu'on collera sous la table quand on en aura fini. Voici le papier mâché de Mathias.
Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Et moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me goûtes et je te colle.
Du coup, alors pour parler du chewing-gum, celui qu'on connaît, il faut remonter en 1866. Et avec Thomas Adam, qui était un photographe aux multiples projets.
Un photographe. Pourquoi pas. Non, tu veux dire qu'avant 1800, machin, il n'y avait pas en chewing-gum.
Au chewing-gum qu'on connaît.
D'accord.
C'est pour ça que je
on mâchait des trucs avant, mais ce n'était pas des chewing-gum.
On mâchait plein de choses, mais le chewing-gum qu'on connaît. Car une petite blague. Non.
Pas, je demande
pitié pour le montage, s'il vous plaît.
Du coup, donc, Thomas Adam était un photographe en fait, qui avait plein de projets, mais peu avaient abouti. Et un jour, il a rencontré un général mexicain qui lui vend un stock de chicle. Le chicle, ou chicle, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, c'était apparemment une résine végétale que je ne connaissais pas du tout, qui venait d'Amérique centrale. Thomas dit alors qu'il va transformer tout ça en pneu de bicyclette, mais après plusieurs tentatives, ça n'a pas pris.
Voilà, ah, il en veut, hein. Il veut inventer des choses, lui.
Oui, il veut faire des trucs, mais je pense que c'est un gars qui avait plein d'ambition, mais c'était pas très concret.
D'accord.
Et puis il passe dans une espèce d'épicerie, et puis à un moment, il se dit, mais pourquoi pas faire une pâte à mâcher ? Et en fait, il met juste du sucre dedans et bam, ça fait des chocs-à-pic. Non, ça fait ça fait un chewing-gum.
En fait, le chewing-gum est un pneu.
Ah, ok.
Un pneu de vélo avec du sucre.
C'est un pneu de vélo avec du sucre.
D'accord. Ah,
mais bon, d'origine naturelle à la base.
Ouais. Mais végétale.
Oui, c'est
végétale.
Un petit coup de génie quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Donc là, pour le coup,
il a trouvé.
Là, il a eu enfin son projet de foufou et
après, il invente la brosse. C'est ça.
Alors attends, j'attends la vanne.
La brosse à dents.
Bah oui.
Ah oui, Adam,
oh,
on avance.
Ah, c'est pas vrai.
Donc du coup, j'étais un peu déçu.
Il fait chaud.
Je m'attendais à quelque chose de plus concret sur le
chewing-gum.
Ouais,
sur l'invention, et effectivement.
Sur l'invention,
ouais,
tout non. ça. Et pour l'histoire, c'était assez fun à découvrir, de voir ce gars un peu perdu qui... avec des pneus de bicyclette. Qui
c'est fini, du coup.
Mais alors... Et voilà, bonne soirée, à bientôt.
Non, mais... pourquoi Alors, c'est la gomme, parce que c'est ça, c'est de la gomme.
C'est de la gomme, ouais.
Et donc c'est pour ça, chewing gum, c'est ça, et chewing.
Alors,
c'est mâché en anglais.
C'est mâché. Ouais. Donc mâché la gomme, et donc il avait trouvé une gomme naturelle, il a mis du sucre et ça fait chewing-gum.
Ouais, tout simplement.
D'accord. Et ça sentait rien alors ? Ça sentait que le
alors pour les
ça vient du caoutchouc de l'arbre en fait.
Alors je n'ai pas été plus loin que ça dans l'élaboration de son produit. Hein, voilà. Ça n'a pas plus été développé. De toute façon, j'ai regardé plusieurs sites, ils ne sont pas plus intéressés que ça. Ou...
Sur le chewing-gum.
Ouais, sur le chewing-gum. Après, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en préhistoire, du coup, je suis remonté quand même beaucoup plus loin. On mâchait déjà de la gomme, c'était de la sève de sapin. On a trouvé des traces de dents et tout, donc ça c'était plutôt cool. De voir qu'on imagine qu'ils utilisent ça comme antiseptique pour les dents,
aussi.
Certainement.
C'est un petit peu comme le miel qui aurait durci aussi. Donc du coup, ils l'avalent quand même un peu, ou ça fond dans la bouche.
Peut-être.
C'était pas encore un chewing-gum qu'on rejette.
Ouais.
Moi j'ai un chewing-gum entre guillemets que des tribus Amazon utilisent. C'était juste prendre des feuilles de certains arbres en fait qui rendent des effets un petit peu psychotropes.
Ah ouais.
Non plus psychotropes et en fait ils mâchaient ça et c'est comme le cat. Le cat en Somalie, je crois.
La feuille de coca.
Mais voilà.
Là-haut, il...
Mais après c'est pas un chewing-gum parce que c'est pas notre définition du chewing-gum mais ils mâchaient ça, ils le recrachaient par contre.
D'accord.
Ou la chic.
Et donc aujourd'hui, le chewing-gum n'est plus naturel du tout, du coup.
Rien à voir.
C'est du pétrole maintenant.
Alors après, quand on avance un peu, il y avait aussi les Mayas qui faisaient ça avec de la sève.
Avec
de
du miel. Pardon.
Oh, c'est pas vrai.
Ah bah si, il fallait bien la faire.
Ah bah oui, d'accord.
Ah ça y est, c'est monté à la tête de Robin.
C'est dur ce soir.
Ah ouais, c'est très dur, ouais.
Ah ouais.
Heureusement qu'il y a une deuxième partie.
Pour remonter le niveau.
Pour remonter le niveau, la deuxième partie de cinéma, ouais. C'est ça.
Restez alors, avec nous ce soir, la deuxième partie sera géniale.
Oui.
Alors les Mayas.
Du coup, les Mayas mâchaient de la sève de sapotillier. Alors, je voulais vous débrouiller avec ça, voilà. Prenez votre téléphone et regardez sur Wikipédia.
C'est sympa comme émission, tu sais. On vous donne le thème et puis vous débrouillez sur Wikipédia.
C'est une émission interactive.
Ouais, je vois. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Non, c'est un arbre fruitier originaire des Caraïbes.
D'accord.
Du coup, il y a aussi les Égyptiens qui utilisaient en fait de la résine de pistachier. Voilà.
Bah oui.
Du coup, bon, on sait pas plus, mais on sait que voilà, on mâchait un petit peu.
Bah, il y avait le bois de réglisse.
Ça faisait de la gomme à mâcher.
Le bois de réglisse. Le girofle aussi.
Le clou de girofle.
Ah oui, pour les caries et tout.
Oui, mais ça, c'est dégueulasse. C'est pas un chewing-gum, c'est pas un bonbon.
J'aime bien, moi.
Quoi?
Ah ouais, j'adore le goût, ouais.
C'est horrible.
Ouais, c'est un petit goût de...
D'accord. Bon, on vous sert un petit café, puis on continue l'émission. On y va. Qu'est-ce que tu avais d'autre à dire?
Alors, selon vous, combien de temps met un chewing-gum à disparaître dans la nature?
Longtemps.
J'ai vu ça en primaire.
50 ans.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu ça en primaire. C'est plusieurs dizaines d'années, ouais.
Pour moi, je crois que ça avait genre entre 100 et 500 ans.
Ah bon?
Les chewing-gums d'aujourd'hui, qui sont...
253 ans et demi.
Bon, alors, je sais pas.
5 ans.
Vous êtes
vous êtes un peu excessif quand même.
Mais attends, mais ça veut dire que les chewing-gums qui traînent dans la cour de récré quand on est gamin, t'en as plein partout, ouais, ils ont à peine 5 ans.
Ouais,
mais
ça rend les... Tu peux les remâcher.
Oh.
Donc ça veut dire que celui que j'ai craché le 3 février
2000, il a disparu.
Ah bah il est disparu.
Ouais, en face de la porte B du...
Il faut juste 5 ans. Bon, ça fait quand même beaucoup.
C'est beaucoup, ouais. Ouais,
ça fait quand même...
5 ans dans la nature. Sur le goudron, par contre, ça marche pas du coup.
Ouais,
il sera moins mort.
Du coup, il faut 5 ans pour un chewing-gum pour disparaître de la nature. Et c'est un problème dans les villes parce qu'effectivement, on les piétine,
ouais.
Ça colle au sol, ça noircit, ouais,
ça colle aux chaussures aussi, c'est dégueulasse.
Ils ont inventé en 2010 une machine qui chauffe et qui envoie de la vapeur d'eau et ça marche super bien. À Angers, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même des trottoirs.
C'est
magnifique, propre. Super propre.
Ouais,
et le souci, c'est que c'est absolument pas écologique ces machines-là. Enfin, ouais. Réchauffement climatique, blablabla, vous connaissez la suite, hein, mais c'est pas.
Et comment on enlève un chewing-gum d'un tissu?
On le met au réfrigérateur.
On tire.
Au congélateur.
Au congélateur, effectivement, ouais. Mais un glaçon dessus.
Il se rétracte et hop.
Voilà.
Ouais. À Seattle, il y a le Gomwell, qui est une portion de mur entièrement recouverte de chewing-gum usagé et qui est devenue une attraction touristique de la ville. Voilà, petite information.
Bah, très bien.
C'est chouette, et sinon, à Singapour, en Asie, on ne rigole plus avec les chewing-gums. En fait, c'est interdit depuis 28 ans. Est-ce que vous savez pourquoi?
On ne peut plus mâcher de chewing-gum à Singapour. Je sais pas, parce que ça nous fait une tête pas possible, c'est pas bon pour les caries.
De leur royal local.
Il y a des petits animaux qu'on mangeait, je sais pas, non?
Non. C'est parce qu'en 1992, le métro n'avait pas pu ouvrir ses portes à cause d'un chewing-gum qui bloquait le mécanisme. Ah. Depuis, c'est interdit. À part quand c'est
la serrure, ça, c'est
pour la nicotine, des choses comme ça et tout, mais sinon, c'est interdit.
Ah bah, s'ils interdisent tout à chaque fois qu'il y a une panne...
C'est une des villes les plus propres au monde aussi, hein.
Oui.
Ils ont un petit,
mais on
petit
mâche pas de chewing-gum.
Concurrence à Angers. Et pour terminer, j'ai enregistré quelques petits goûts originaux. Oui. Est-ce que vous avez une idée des goûts qu'il peut y avoir d'ailleurs originaux?
Le bubblegum, c'est la fraise un
Olivier,
peu.
Olivier, on t'écoute. Ouais.
Originaux, pas les goûts qu'on connaît, parce que sûr, on les connaît. Mais
fraise, banane.
Il y a tous les salés.
des bigous. Les trucs.
Les bigous,
ah oui, c'est vrai, tu commences avec un goût, tu finis avec un autre goût.
Non, mais avec du melon dedans, là, un peu liquide et tout.
Ah oui, ça coulait et tout. Ah oui.
Ouais. C'était trop bon.
Le Malabar qui avait fait ça.
Je sais pas c'est quoi les goûts.
Et les dents de mammouth, en fait, ça compte comme un chewing-gum. Enfin, les je sais pas comment
mammouth.
Ça s'appelle.
Les dents de mammouth. Les boules de mammouth.
Alors, alors j'ai découvert qu'il y avait des chewing-gums au foie gras.
Oh.
Parce que tout de suite, ça fait classe.
Ah, ouais.
Donc, ça vient des États-Unis. Et ça existe vraiment. J'ai vraiment vu le.
Ouais, j'ai pas envie.
Il y a goût mandarine givrée en Suisse. Au Frankenbean.
Comment?
Donc, c'est au goût haricots et saucisses.
Oh.
Ou quoi?
Oui,
haricots et saucisses.
États-Unis encore.
Oh,
ouais, ils sont très créatifs.
Hein. Bon.
Ouais. Il y a spéciale journée au stade.
Quoi,
saveur hot dog, bière et cacahuètes.
Ah bon.
Parce que goûteur, c'est mon.
Glaire.
Ouais.
Non, bière.
Ah, bière.
Glaire. Non.
Saveur glaire.
Je suis. Oh non.
C'est comme les
sueur glaire et. Allez, c'est parti. Il y a un goût canne à sucre parce que Noël nous manque.
Oui.
Voilà, c'est vrai. Aux États-Unis. À la barbapapa.
Barbapapa.
Ça, c'est en Italie.
Ouais.
Et saveur popcorn.
Ah oui.
Aussi aux États-Unis, du
popcorn,
coup.
C'est
voilà,
pas mal.
Tu parfums sympa, quoi.
Merci, Mathias. Alors que l'été arrive, on pense déjà au tube de l'été. Mais de quand ça date? Depuis quand on sort ces chansons si reconnaissables en été? Eh bien, on pourrait penser que ça a commencé dans les années 80. Eh bien, non. C'est beaucoup plus tôt. On parlait déjà du tube de l'été dans les années 60. Voici d'ailleurs la chanson de l'été de 1960. Dalida mettait pour la première fois un bikini rouge et jaune à petit point.
Sur une plage, il y avait une belle fille. Avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, itty bitty, tini wini, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty.
voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit 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 tini wini, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle petit petit tini wini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit itty bitty tini wini, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Et itty bitty tini wini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
C'était Itsy Bitsy Petit Bikini de Dalida, la chanson de l'été 1960. Vous êtes toujours dans CMA, voici le sommaire de la deuxième partie. L'été, on laisse souvent son cerveau au bureau. Eh bien, ça tombe bien, il ne va pas en falloir pour ce dont va parler Olivier. Bonsoir, quel est ton sujet?
Alors, ce soir, je vais vous parler des blockbusters, les gros succès.
Ah, les gros succès du cinéma américain. Du cinéma. D'accord. À la précédente émission, on a appris pourquoi on disait avoir les doigts en éventail avec Sandra. Aujourd'hui, on prend aussi notre pied avec Robin. Bonsoir, de quoi nous parles-tu?
Oh oui, c'est pour prendre son pied. Oh oui, bah, écoute, un plaisir. Bonsoir, bah, je vais vous parler d'un habit qui a été créé par les Égyptiens, les Japonais et les Brésiliens.
En même temps, la tongue.
Alors en même temps, non. Mais voilà, c'est le suspense pour la suite
plus tout à l'heure. Il y aura également un Graal qui nous expliquera aussi ce qu'est la loi de Murphy. Vous êtes bien dans CMA, voici la deuxième partie qui commence. Ce qu'il y a de bien avec les salles de cinéma, c'est qu'elles sont climatisées. Quelquefois, ce simple fait est plus intéressant que ce qu'il y a sur l'écran. Voici la chronique d'Olivier.
Oui, alors ce soir, j'avais envie de vous parler des blockbusters. Les blockbusters, à l'origine, c'est un terme anglais des forces alliées de la Seconde Guerre mondiale. Et ça désignait une bombe si puissante qu'elle pouvait détruire tout un pâté de maison. Donc littéralement, blockbuster, c'est qui fait exploser le pâté de maison. D'accord. Blockbuster. Alors ça a été utilisé au théâtre, notamment à Broadway, pour désigner une pièce au succès important qui fait de l'ombre à toutes les autres. Et puis au cinéma, donc on parle depuis à peu près 40 ans, des blockbusters. Alors les blockbusters, c'est une super production avec un gros budget, plusieurs centaines de millions de dollars, une distribution de stars, généralement une tête d'affiche, des films qui attirent le public, mais seulement avec une star de cinéma.
D'accord. Puis pas forcément l'histoire.
Souvent un scénario simpliste pour que les gens s'y retrouvent.
Comprennent. C'est l'été. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête.
Des effets spéciaux généralement et surtout une campagne publicitaire énorme, largement supérieure au coût du film généralement. Mm-hmm. Et puis beaucoup aussi de merchandising, donc des produits dérivés attirent l'arigot.
D'accord.
Voilà, ça c'est au cinéma, les blockbusters américains, c'est depuis à peu près 40-50 ans que ça existe.
Ah oui, je croyais que c'était récent, moi, que au niveau marketing, on avait laissé tomber un peu juillet-août, et puis là, du coup, on y revenait.
Il y a vraiment une histoire. Il faut savoir que, avant le film que je vais vous dire, donc on est en 1975, avant 1975, le cinéma c'était vraiment la saison poubelle. On diffusait uniquement des nanars.
Juillet-août, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Il y avait même des salles qui étaient fermées. Hein, aussi bien même en France aussi, c'était pareil. Hein. Mm-hmm. Les gens n'allaient pas au cinéma l'été.
On ne leur proposait rien.
Que des fonds de tiroir, en fait. D'accord. Et puis, donc, les films sortaient plutôt en fin d'année, aussi pour concourir aux Oscars qui avaient lieu l'année d'après. Et donc, dans les années 70, donc on est en juin 75, et puis, voilà, Universal a l'idée de sortir Les Dents de la Mer de Steven Spielberg en juin 1975. Alors, ils sont bien embêtés par ce film, parce que tout le monde pense que le film va être une daube, un échec. Enfin, ils pensent que
puisque tout ce qui sort en juin, c'est normalement nul, ouais. Donc ils pensent que ça va être nul.
En fait, ils sont très déçus du côté animation du requin. C'est vrai, quand on le revoit maintenant, c'est vraiment très, très cheap. Spielberg avait eu l'idée de sauver le film en faisant plutôt avec la petite musique de John Williams, puis aussi en prenant... en faisant croire que c'est la caméra, c'était un peu les yeux du requin aussi. C'était un peu l'idée qu'il avait trouvée.
D'accord.
Pour moins faire voir le côté carton. Trop anime, carton du truc. Universal le sent pas trop, donc il investit près de 2 millions de dollars dans le marketing.
Donc, ah bah il y croit quand même. S'il y croit pas
non,
trop.
Non, justement, il pensait qu'il y avait que ça qui pouvait sauver le film.
Ah,
donc il a essayé aux gens de faire venir les gens. Donc en faisant des spots publicitaires, des produits dérivés. Et au final, le public se rue en masse, les gens sont intrigués par l'histoire, et le film devient le plus grand triomphe du cinéma en 1975. C'était le film le plus rentable de l'histoire du cinéma.
Et donc, c'est le premier blockbuster, du coup.
Alors, la preuve qu'un film peut marcher l'été.
D'accord.
Et donc, deux ans plus tard, un copain de Spielberg, donc George Lucas, a l'idée aussi de sortir son fameux film Star Wars, La Guerre des Étoiles. Il mise aussi à fond sur les ventes d'objets dérivés. Et là, le film, on connaît aussi le film.
C'était en juin aussi, donc.
C'était aussi en été 1977. D'accord. Et là aussi, le film est un blockbuster énorme.
Attends, c'est si vieux que ça, Star Wars ?
Ah oui, c'est 77,
le premier, oui.
Ouais. Et donc, ça fait 45 ans que les studios se sont dit il faut sortir les films d'été, parce D'accord. que c'est là que les gens...
Mais là, c'était quand même un peu en juin encore. Hein. C'était pas encore plein de vacances.
Alors c'est... Oui, c'est sorti là. En fait, la grosse saison américaine, c'est vraiment mai, juin, juillet, août.
Ah oui, surtout... D'accord. Nous, ça vient chez nous plus tard, quoi.
Ouais, mais surtout fin juin, début juillet, ça correspond à peu près... Enfin, ça correspond au 4 juillet, quoi, le jour de l'indépendance américaine. Les gros films sortent toujours début juillet.
D'accord.
Mais ça commence de mai à août. Hein. Mais mai, juin, juillet, c'est vraiment les gros mois. Alors, il a fallu attendre longtemps pour que la France y vienne. Il y a 20 ans à peu près que c'est arrivé. Souvent, on attendait le festival de Deauville qui avait lieu fin août, début septembre. Les films étaient présentés à Deauville et puis après ça sortait en septembre, octobre, novembre, décembre. Mais voilà, c'est assez nouveau en fait le fait que les films
que des années
américains
2000, du coup.
Ils sortent dans les années. Oui, ils sortent l'été. Il y a eu quelques tentatives dans les années 90, mais c'est surtout, moi je dirais, début 2000 D'accord. jusqu'à maintenant. Ce qui a changé fondamentalement, c'est la révolution numérique. Il faut savoir que maintenant, les films, ils sortent généralement en même temps dans le monde entier. La France elle-même est avantagée, parce que souvent, la France, les films sortent le mercredi.
Et c'est le vendredi.
Et puis le vendredi sort le film en Amérique. Et souvent, D'accord. on a une avance. Alors pourquoi ça sort en même temps ? Il y a le peur du téléchargement.
Du spoil.
Imaginez que voilà un film qui sort il est sorti il y a 4 mois aux États-Unis, on l'a quasiment dans la semaine, ouais. on l'a en France en téléchargement. Quoi. Donc ça pouvait nuire à la fréquentation des cinémas. Puis moi je dirais aussi, il y a la peur du spoiler.
Ouais, ça, bah oui.
Imaginez que Spider-Man soit sorti 5 mois après le dernier. Là.
Imagine qu'Olivier fasse de la radio et qu'il présente le film.
Non, mais imaginez, on aurait tous vu, maintenant on a tous un téléphone portable, on filme les scènes, on va 2-3 fois au cinéma. Et on tourne pile poil le film, enfin Spider-Man qu'on a vu maintenant.
C'est très difficile de passer à côté. Ouais.
On ne peut plus faire le spoiler, mais bon, il y a une scène vraiment où.
Non, mais c'est bon.
Voilà. Bref.
C'est plus fort que lui. Hein. C'est vraiment plus fort que lui.
Est-ce qu'on a peu de temps, non ?
Bah, vite fait, là.
Bon, vite fait. Non, juste un petit jeu. Je voulais vous dire trois. Il faut retrouver l'année où sont sortis.
Tu copies pas, toi. Je le vois là. Il y a Robin qui regarde ta feuille.
Je vous sors les trois gros films qui sont sortis cette année-là, ce qui ont eu le plus de succès aux États-Unis. Il faut m'en trouver l'année. C'est sorti.
D'accord, alors vas-y.
Donc, les trois plus gros succès de cette année-là ont été Jurassic Park, Le Fugitif avec Harrison Ford et La Firme avec Tom Cruise.
Oh, Jurassic Park, c'est vieux, ça. C'est 2000, c'est même avant.
97.
Ouais. Oh non, c'est avant.
Non, c'est avant 97 mmh. Ah oui.
95.
Avant.
Oh là
93
93.
93 ouais. Ah oui.
Et puis un petit dernier pour la route.
Justin. Ah bah c'est Justin, alors on a que
quelle
deux.
Année est sortie en même temps ? Alors, les Gardiens de la Galaxie, le premier, Hunger Games, La Révolte, et Captain America, le soldat d'hiver.
2002
2002
Oui.
Ah non,
2014.
Plus jeune que ça, quoi.
Ah, plus
Oui.
2014
C'est ça. Ah, bien, d'accord. Romain.
Bah, dis-donc, il a trouvé les deux, lui.
Bah oui, oui. Chapeau. Bah, tu as gagné. Toute mon estime.
Bon, enfin, c'est du hasard, parce qu'il ne connaît rien au cinéma.
Après, c'est que j'aime bien le cinéma aussi.
écoute. Allez, merci Olivier. Avant les crocs, il y a eu les tongs. Et comble du bon goût, les tongs avec des chaussettes. De quoi se faire retourner Caro dans sa tongue. Voici la chronique de Robin. Et ça, c'est quoi avec Caro, tout ça? Elle a la référence, Caro. Alors, Caro, c'est quoi?
C'est le camping des flots bleus, là. Le, oui. Ah, camping, Patrick, hein. C'est quoi?
C'est ça, la musique, camping, la musique du film
Patrick
Camping.
Chirac. Patrick Chirac.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Voilà. Non, moi aussi, je l'avais en tête quand j'écrivais la chronique. Horrible. Mais non, mais du coup, ouais, moi, je vous parle des petites gougounes, comme diraient nos amis québécois. Celles que les Allemands aiment à fusionner. Ouais, les gougounes.
C'est nul comme nom. Les gougounes.
Les gougounes.
Les gougougnettes.
Et oui.
Je reste dans le thème.
Non, mais c'est... Je vais pas m'en éloigner non plus, t'inquiète pas. Puisque. Donc, oui, déjà, tu l'as dit, nos chers amis allemands qui aiment bien fusionner ça avec les belles chaussettes. Ouais. Et oui, et pourtant, les tongs ont une histoire. Le tong, en fait, c'est un mot qui est d'origine anglais. Parce que le thong, T-H-O-N-G, ça veut dire lanière. C'est aussi le mot thong qu'on appelle les culottes fines pour les filles, entre la culotte normale et le string. Comme quoi, je vous disais, hein, dans cette émission, on arrive toujours à un moment à parler du popotin, même quand ça parle des pieds à la base.
Oui, t'as vrai, effectivement. C'est...
Mais bon, donc...
Popotin, ouais.
Oui, mais je me suis...
C'est mignon.
Je pensais pas...
Non, si, c'est bien, restons mignons, voilà. Un petit peu de poésie, s'il vous plaît.
Non, mais donc, une tongue, c'est tout simple à fabriquer. C'est une semelle, une ficelle, et hop, c'est fond. C'est bon, c'est fait. Même Robinson Crusoe, perdu, sans rien, a pu en faire. Donc... c'est normal que ça soit apparu au 4e millénaire avant Jean-Claude, avant JC, voyons.
C'est pas le même, ouais.
Quelle erreur. Non, mais par les Égyptiens, mon Dieu. Elles sont bien pratiques sur la plage pour ne pas se cramer les pieds sur le sable chaud. Alors imaginez, en Égypte, en plein désert, se protéger les pieds est alors essentiel. Aujourd'hui, les tongs les plus connus et les plus vendus sont les Havaianas, qui sont la traduction du...
Ah, il y a une marque de tongs.
C'est pas une marque, c'est un style. Les Havaianas, qui en fait, c'est un nom portugais qui veut dire les Hawaïennes.
Ok.
Qui sont en style de tongs.
Ah non, je ne
porte
pas de tongs, je suis désolé.
Les Bruno, on voit ça partout.
Ah, on voit ça partout.
Ah, ça, j'ai pas vu.
Ah oui, mais je ne suis pas partout.
Mais donc ouais, ce style de tongs a été créé en 1907. Et c'est les tongs qui sont connus mondialement. C'est celle avec le petit drapeau du Brésil sur la lanière, puisque c'est créé justement par une entreprise brésilienne.
D'accord, on voit les images effectivement en bas, et à gauche de votre poste. Merci, j'ai vu.
Elles sont en plastique, elles tiennent pas longtemps du tout, mais on en trouve à tous les bords de mer, à tous les bords d'eau en fait. Hein. C'est vraiment pas cher.
Donc c'est comme les briquets, c'est bien pour pourrir un petit peu tout. Quoi.
Exactement, bah, vu la date de création, ils s'embêtaient pas trop à savoir si la planète, etc. Hein.
Ouais.
Mais ces tongs sont aussi inspirés des zori. Les zori qui sont des tongs claquettes japonaises. Comme quoi, et je vous disais... Hein,
la tong, c'est déjà mieux... c'est déjà plus japonais déjà.
Non, attends, tu sais qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que t'avais justement un petit groupe de fanatiques religieux qui s'appelait les tongs.
Les tongs.
Chinois. Ah, mais comme quoi...
Mais s'ils s'habillent pas en tongs.
Non.
Ah, non, ça n'a rien à voir, d'accord. Oh, la religion des tongs. Oh mon dieu.
D'ailleurs, quand tu rentres, tu fais ting tong.
La chaleur nous tuera. Hein,
Non mais du coup, alors, dans mes recherches, j'ai trouvé un truc impressionnant. Si je vous dis une épreuve olympique avec des tongs, vous me dites que c'est impossible.
Bah, olympique, oui.
Mais oui, évidemment que c'est impossible. Mais quand même. C'est pas d'y croire, voyons.
Oui.
Non, oui, déjà que courir
avec des tongs,
c'est impossible. Alors imaginez Usain Bolt faire son 100 mètres avec des tongs. Non.
Par contre, Olivier a raison. Il y a des compétitions de lancer de tongs.
Oui, il me semble.
Ouais. Oui, ça existe.
Non mais alors. Imaginez aux Jeux Olympiques, la seule épreuve où on aurait pu avoir des tongs, ça aurait été encore la pétanque. Mais,
ah oui,
et encore,
c'est vrai.
Et encore. Mais ouais, donc tout le monde porte des tongs à la plage, même, et là, c'est pour les gens qui n'ont pas encore de vacances, mais on l'espère bientôt, même vos patrons qui ont un air très sérieux avec leur costume noir et tout, et qui vous disent « Ah là là, plus de production, etc. etc. » Bah imaginez-les avec les tongs à essayer de pas se foutre du sable partout, sur la crème solaire, etc. Impossible.
Ouais, mais c'est pas ça qui nous les fera aimer non plus. Hein.
Non, mais ça peut faire passer la pilule.
Ouais, je sais pas.
Mais bon, sans avoir besoin d'aller à des centaines de kilomètres pour porter des tongs, on a le lac de Maine qui peut vous accueillir pour exhiber vos petits doigts de pied avec ces belles tongs.
D'accord. Ok, très bien. Bon, ça vous dit de porter des tongs, les garçons, les filles? Est-ce que tu portais des tongs, notre... Caro, c'est le bon goût. Hein, c'est...
Alors, bah,
tongs
oui,
Balenciaga, mais... ils font pas des tongs à 300 boules
Bah si, bien sûr.
Ah oui, je me disais aussi.
Non, mais les Havaianas sont très bien. Il y a des collections chaque année, etc., qui sont vraiment belles, etc.
D'accord. Mais c'est, les tongs, mais... c'est bien ce qui se met entre l'orteil. Et...
Exactement.
Voilà, mais c'est fait... bien de
c'est
dire...
C'est pas hyper confortable.
C'est pas confortable, ça fait des rougeurs.
Et préciser qu'au lac de Maine, parce qu'il y a une arrivée de tongs un peu crado, un peu en ville, là.
Ah ouais.
Et en ville, on s'habille pas avec des tongs, non, en fait. Tongs égale plage, tongs égale sable. Tongs pas égale bitume.
Aller au restaurant en tongs, c'est pas jouable.
Il y en a un, il y en a beaucoup, là, depuis l'arrivée des beaux jours.
Ni dans le train, ni dans le bus.
Exactement, oui, on n'a pas envie de voir ça.
Si tu veux gommer tes marques de bronzage et que tu as envie et tu dis tiens, tu as envie d'en déposer
alors,
un peu.
Alors non, alors ça c'est encore pire parce que si tu bronzes avec
de
des tongs,
les marques de
tongs,
c'est un string de pied.
C'est un string de pied.
T'as
tout à fait raison.
Bon, moi je ferais pas ça alors.
Ah ouais, non, ça c'est horrible. Ok,
ben. Ou alors il faut avoir des beaux pieds.
Ah oui, non, mais même un
string de pied. J'ai des beaux pieds.
Ok, ok. Bon. On va clôturer les tongs. Le Graal maintenant répond à une question d'auditrice qui demande ce qu'est la loi de Murphy. Rien à voir avec les tongs.
Question de Lucie Dumont. C'est quoi la loi de Murphy ?
C'est la loi de l'emmerdement maximal décrite par Monsieur Murphy. Allez, on en parle en espérant que tout va bien se passer. Le texte de cet adage est « Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal ». En fait, ce monsieur Murphy était un ingénieur américain en aérospatiale. Et quand on parle de mission dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit donc prévoir l'imprévisible. Le fait qu'un utilisateur fasse une manipulation imprévue doit alors toujours être considéré comme une probabilité. Appuyer sur deux boutons en même temps, alors que ce n'est pas logique, ni pratique, ni utile, arrivera bien un jour. On aura beau dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Le mal sera fait et la loi de Murphy aura frappé. Alors, amis concepteurs, un conseil. Tout ce qui est possible peut arriver. Soyez prévoyants. Une manœuvre faisable, bien que stupide, est toujours possible. Nul n'est parfait, surtout pas les autres.
Voilà pour la loi de Murphy.
Qui d'ailleurs est une très bonne chanson d'Angèle.
Everything was going well. No obligation. Thought I'd make a getaway. On a chill out day. A coffee to take away. Should have been a lovely day. Didn't end that way. Puis là c'est trop parti en couille. A d'abord eu la pluie. La loi de Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin. Gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan drague. Ce con m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque. Je laisse passer mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ces extraits de l'année. Je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique. One time, never give it up. You too. Thinking it would be okay with this direction. What the heck? I should have stayed in bed. Netflix and honey tea curled up in my bed. Will be better in my sweater than be outside in this weather. Je lui ai dit qu'il était temps. J'ai vite compris que c'était pas mon jour. C'était écrit sur cet écran que Murphy voulait ma peau. Ce retrait est impossible pour cause de solde insuffisant. C'est Murphy qui l'a dit.
Where are you?
Allez, pour terminer l'émission, on va jouer un peu avec les tubes de l'été. On a écouté Dalida tout à l'heure. Eh ouais, c'était dans les années 60. Voyons maintenant si vous vous souvenez des années 80, 90, 2000. Alors là, les tubes de l'été sont devenus plus commerciaux parce que les marques de soda sponsorisaient également, si vous vous souvenez, les différentes chansons. Alors, vous avez essayé de retrouver le nom de l'interprète, le titre et l'année.
Tout ça.
On y va. Eh ouais, tout ça. Attention, voici le premier.
Kaoma Lambala.
Alors, Kaoma Lambala, quelle année ?
1989.
Oui.
Pas mal.
Oh, oh, vache. Oh, la précision.
Là, ouais. Bravo. Bien joué.
Je me rappelle qu'il y a un historique.
Allez, attention, deuxième.
Soca Dance. Soca Dance.
Robin est député.
Je suis
né après la fin.
Alors,
93.
Avant.
Ah, non.
Avant.
90.
Soca Dance. Qui chantait ?
C'est
bon,
ça. Soccer. Oh, non. Soccer. C'est un nom de groupe ou c'est un nom de un gars, quoi ?
C'est un gars.
Jean-Michel Soccer.
Alors, il s'appelait Charles D. Lewis.
Ah oui.
Et ça avait été lancé par TF1 qui voulait refaire un petit peu ce qu'avait fait Orangina l'année précédente.
Oh, souvent, les tubes de l'été, c'était beaucoup de TF1.
Ouais. Bah, ils essayaient, effectivement.
Ouais. Et ça marchait bien.
Allez, attention, chanson suivante. Oui. Quelle année ?
2016.
Avant.
2016.
Ah, ça rappelle quelque chose. Chorégraphie de qui ? Oui.
Pas venu avec la chanson.
Comment ?
Alors, c'est pas venu avec la chanson. On en apprend tous les jours avec CM.
Ben oui, tout à fait. C'est grâce à ça d'ailleurs que la chanson a bien marché avec le clip et la choré de Mia Fry.
C'est pas foulé. Hein.
Ben si, c'est quand même bien. Ça
ah
marche
bah ça
bien.
Reste. Si, ça reste.
Oui. Ça rappelle.
Allez, attention. Année 2000 maintenant.
Bah. La SketchUp.
Oui.
Merci Viré.
Oui.
2003.
Pas 2003.
2000.
Non.
2006. 2002.
Non, avant.
2001.
2002.
2002, oui.
Et les mots qu'elles disent là, c'est.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire.
Si, si, c'est du hip hop.
Non, non. Ça ne veut absolument rien dire.
Ouais, ça te démonte.
Je suis désolé.
Mais on m'avait dit.
Non, non, c'est du yaourt. C'est du... Ça ne veut absolument rien dire.
C'est comme Koulou Koulou, je touche, touche, c'est pareil, ça va rien dire.
Ah,
ah oui,
c'est la même chose.
Ah, ça...
C'est la même chose, hein. C'est encore assez aéré. Hein.
Attention.
Allez, attention, suivant.
Chihuahua.
Alors,
Mambo number 5. Mambo.
Le premier. Oui, Chihuahua. Quelle année déjà ? Avant. 2003, oui. Donc c'est bien Chihuahua de DJ Bobo.
Oh bah oui.
Ah, c'est...
Et on est d'accord, qui mange un chien ?
Chihuahua.
Voilà, allez.
Oh.
Ah, suivant. Chanson suivante.
Maya who? Maya who?
Maya
oui.
Maya 2005 avant. On avance dans le temps.
Avant
2004.
Alors, salut. C'est Diego.
Repris par Florence Foresti
dans le spectacle. Oui,
il
avait
reconnu.
Ta famille, il y a Calélo.
Ah, mais il y en a plein.
À l'époque,
allez, attention. Alors là, on va aller l'année dernière.
Alors là, c'est beaucoup plus récent. Parce qu'on, j'ai l'impression que depuis certaines années, c'est tellement fouillis, on n'en a pas une qui ressort, oh là etc. Là,
alors, est-ce que c'est pas un discours de vieux con de...
Ah, là, vas-y, voilà, alors, voilà. Ok. Donne-moi le nom de la chanson de l'année dernière qui a fait la chanson de l'été.
Alors, moi, je suis pas très chanson.
D'accord, donc t'es jeune con, alors, c'est ce qu'on a dit, d'accord. Okay. Non, mais il y a moins, c'est pas lié à une marque, c'est pas, il y a pas ça. Alors, par contre, il y a des chansons qui ont marché. Par exemple, il y avait celle-ci. Voilà, ouais, c'est l'été. Hein. Alors, qui chante ça? Alors voilà, mais écoute-le l'autre, alors il dit quoi?
j'ai pas dit que j'étais doué en musique.
Ah mais t'es doué en tout cas pour nous faire des... pour nous en donner. Ah ouais, mais attends, voilà.
Bah surtout toi, Paul.
Quelqu'un connaît?
Non.
Personne? Bon, t'as raison, je suis un peu des vieux cons quand même. Hein. C'est... Moi j'ai le texte, donc c'est bon. C'est Faruco avec Pépas ou Pépas avec Faruco, je sais pas dans quel ordre.
C'est vrai qu'en fait aujourd'hui on a tellement beaucoup plus de variétés qu'il y a rien qui s'en démarque et qui pop de tout.
Eh, vous savez quelle heure il est là?
T'as pas dit Yannick Noah?
Non.
C'est l'heure de savoir qui c'est le CLA+.
Alors là, ce que vous entendez, c'est ils sont en train de casser la table. Donc, les auditeurs ont voté pour la rubrique
j'en peux plus.
Qui est le plus la dernière émission. Alors, il y a 15 jours, on a eu en sujet les panneaux, le cliffhanger, la taxe rose, les jingles de la SNCF avec la chanson, machin. Les chansons françaises de The Voice avec Soso, qui nous avait chanté un petit peu. Et puis, on a eu l'éventail. Eh bien, c'est une femme qui remporte le CMA+. Et ce n'est pas Caroline, désolé. Ce n'est pas Soso.
Trucage.
Et c'est Sandra qui nous a tous mis un vent avec son sujet sur l'éventail. Et ben, c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses. Les doigts de pied en éventail, genre, il y avait pas mal de détails et tout qu'on ne connaissait pas. Et apparemment, ben, les auditeurs aussi ont trouvé que c'était très intéressant. Donc, bravo Sandra, ce sera ton troisième CMA. Donc, avec, donc Olivier, Sandra... Et Caro, vous êtes tous les trois. Là, c'est chaud. Hein. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs et queuses de ce soir. Merci Robin.
Merci.
Merci Caro.
Merci.
Merci Florian.
Merci.
Merci Olivier.
Merci
Mathias.
Merci.
On se retrouve à la même heure et au même endroit dans 15 jours pour un nouveau numéro de CMA. Car oui, j'ai du mal. CMA, c'est aussi l'été. Oui, on sera là. D'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. Allez, c'était CMA. Yodelay, yodelay.